monsieur, bonjour mesdames, bonjour Ulu, bonjour Alain de Lillois, si je ne me trompe, on a quelques fidèles auditeurs.
Ouais, on peut leur dire bonjour maintenant.
Et puis nous voilà en route pour le 8e, je ne me trompe pas Marc.
Oui, on avait dit qu'on arrêtait de compter parce que franchement, un jour on va s'en mêler les pinceaux. On est toujours là de toute façon, voilà, fidèles au poste.
J'en connais d'autres qui font le podcast depuis leur 50 ou 60e numéro et qui sont toujours en train de les compter.
Oui, mais bon. Ouais. On va pas jouer à qui a la plus grosse, hein, non plus.
Non, ça, on le sait.
Voilà, exactement.
Voilà.
Et ça, alors, surtout, dit. Cette fois-ci, on vous fait un podcast un peu spécial parce que la moitié du team podcast se trouve, mais loin, 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 puisqu'il y en a qui ont la chance de prendre des vacances.
Non, bah, mais en fait, après, hein, le micro change peut-être un tout petit peu, le cadre aussi, parce que, bah, bon, mais essayez de ne pas trop imaginer, mais il y a un podcast, il y a une des deux personnes qui fait un podcast en slip.
Non, ce n'est pas moi, voilà.
Je ne sais pas donc qui c'est. Avec une magnifique mer de glace, un joli soleil, 31 degrés, c'est dur la vie.
Absolument, c'est dégueulasse. On se venge.
Voilà.
Qu'est-ce qu'on a sur la table aujourd'hui ?
Ouais, quand même plein de choses. Hein. Donc, en profitant des vacances, on parlera un petit peu du roaming. Et puis de plein de choses avec Google, hein, comme toujours. Mais là, il s'en passe quand même encore plein dans les dents. Des Chromebooks, le FTC, Google TV, le piratage à Google, il y a du Sega qui revient sur la route. Sega, c'est plus fort que toi.
Oui, mais cette fois-ci, c'est les hackers qui ont été plus forts que Sega. On expliquera pourquoi. On a eu du matos en test, pour lequel on n'a pas encore réalisé de news, mais on vous le livre en avant-primeur. On a eu deux tablettes entre les mains, une mainstream, une Acer et un gros machin industriel de niveau militaire de chez Panasonic. Et alors, il y a la série de news Facebook, comme d'habitude. Facebook réactive la reconnaissance faciale sur ses photos. Facebook prépare un App Store pour contrer l'App Store d'Apple. Voilà, donc on a de quoi assurer un bon petit podcast, comme d'habitude.
Alors, premier sujet, bah, on va commencer avec les Google. On en a pour un bout de temps à parler de Google pour commencer. Alors, Google, ils ont annoncé en tout cas la Google TV 2.0, Marc.
Oui, ils ont annoncé la Google TV 2.0, le gros mot qui fâche.
Qui fâchait Sony.
Mais bon, faut avouer que le premier Google TV était un peu un flop. Que ce soit tant chez Sony que chez Logitech. Et donc, en fait, Google a voulu prendre un peu de recul. Et annuler la sortie de plusieurs modèles. Donc, en fait, des constructeurs comme LG et Samsung qui avaient prévu de sortir des box, ben, en fait, il n'y a rien qui s'est passé. Donc, c'était resté assez anecdotique. Mais en fait, depuis Google I.O., il y a des news. Et en fait, on a distribué apparemment, Google a distribué apparemment à une série de développeurs, des prototypes de nouvelles box à base d'Android 3.1. Et donc, en fait, on assiste encore une fois à cette convergence à tous les niveaux entre Android qui va s'immiscer, on peut dire, qui va s'infiltrer dans absolument toutes les applications au quotidien et les objets de la vie de tous les jours, ce qui j'en suis sûr, et pour faire plaisir à notre cher Sébastien.
Oui, non, en fait, oui, mais tu vois, autant Microsoft avait une mainmise sur le monde du desktop, autant ici Android... avec leur petite avancée qu'ils avaient fait dans le mobile et puis maintenant qu'ils font dans tout ce qui est embed, ben Android ils se payent une grosse part du marché des systèmes d'exploitation et ça ne serait pas étonnant qu'avec les années qui viennent ils dépassent Microsoft, hein.
En termes de volume et en tout cas sur tout ce qui est embedded et smartphone et tablette, il y a fort à parier effectivement que Google va devenir le numéro 1. Même si au niveau tablette, bon, Apple continue toujours à tenir le haut du pavé pour l'instant, mais les choses sont en train de changer, ça on le sait. D'un autre côté, bon, il faut voir cette arrivée avec un œil quand même un peu, on va pas dire suspicieux, mais circonspect. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a toujours la même question derrière ce marketing à la bulldozer. C'est quid du jour où Google décide de forcer le switch du payant? Parce que là, on sera tous tellement accro que Google sera tellement partout que ben, on aura probablement du mal à suivre financièrement.
Oui, pourquoi est-ce qu'ils le feraient? Parce qu'en fait, quand tu vois, ça leur permet d'avoir une tellement bonne assise d'un point de vue commercial sur les services qu'ils proposent, ce qui pose d'ailleurs une quasi bonne transition sur le deuxième sujet pour des problèmes en justice, parce que si ils imposent leur logiciel pour la recherche, enfin leur search Google, leurs trucs sociaux, leur agenda, enfin un peu tout à la sauce Google, ben ça pose quelques problèmes pour les concurrents évidemment, qui ont envie aussi de vanter leur moteur de recherche, leur logiciel de cartographie, leur agenda, leur
Ouais. Et en fait, effectivement, après la Commission européenne qui avait ouvert une enquête à l'encontre de Google et pour
C'était
abus de
fin
position
2010, non?
dominante fin 2010, exactement. Maintenant, c'est le Wall Street Journal qui nous annonce que, en fait, Google ferait l'objet d'une enquête de la FTC. Alors, la FTC, il faut savoir que c'est le gendarme commercial des États-Unis. Absolument rien de ce qui se passe au niveau économique aux States ne peut se faire sans leur accord. Et voilà. Donc, c'est un deuxième dossier qui est ouvert, à l'encontre de Google. Et bon, selon des sources proches du dossier, on tient ça pour ce que ça vaut, hein, on connaît les mots habituels, bah, le quotidien évoque quand même que c'est une investigation, une opération qui pourrait être la plus ouverte, la plus importante jamais ouverte à l'encontre de Google aux États-Unis, en tout cas. Maintenant, bon, abus de position dominante, d'autres se l'étaient pris dans les dents à l'époque. On repense évidemment aux amendes historiques infligées par la Commission européenne à Microsoft,
Ils ont payé d'ailleurs.
qu'ils ont payé d'ailleurs. Ils ont dû la payer et ça leur a fait suffisamment mal, je suppose. On
Je ne
parlait
sais
quand
pas
même
s'ils
de
ont payé.
560 millions de dollars. Si, si, ils l'ont payé, je pense bien. Et voilà, bon, qu'est-ce qui va se passer? Encore une fois, de nouveau, ça se joue à des niveaux tellement élevés, sur des enjeux stratégiques tellement importants que du côté de Google, c'est silence radio sur toute la ligne. Et du côté de la FTC, pour l'instant, on invoque la confidentialité la plus totale. Pour le reste, voilà, pas manqué, ça va probablement être un des feuilletons de l'été, au niveau du petit monde IT.
Pour en revenir et terminer quand même avec Google TV, ce qu'on en a tiré comme info pour le moment, à part que c'est une 3.1, c'est qu'il existerait un moyen, en tout cas, d'utiliser toutes les périphériques à base d'Android, genre style tablette, qui pourraient passer, en tout cas à partir de la 3.1, à un mode Google TV. Et donc on aurait, comme on a sur d'ailleurs Léon et Combe, qui peuvent avoir un mode d'affichage smartphone, avec quelques hacks, les gars du forum XDA ont fait une démonstration d'ailleurs, que l'interface tablette est en fait juste une surcouche et qu'on peut switcher smartphone ou tablette, bah, la version Google TV serait un peu plus ou moins la même chose, et peut-être qu'on aurait des tablettes avec sortie, comme il y en a déjà maintenant, mais avec sortie TV. Et au lieu d'avoir une set-top box que certains pourraient brancher bêtement leur tablette sur leur télé.
Ce qui existe
Donc,
déjà, vu que les chipsets Tegra 2 qui sont embarqués dans
oui,
les
le
tablettes
support,
les
tout à
plus
fait, oui.
récentes, les tablettes intègrent déjà une sortie HDMI qui c'est capable de streamer du PCM, de la C3, de la AC et tout ce que tu veux, capable de monter même, je crois, sur certains modèles en 7.1, et que les nouveaux chipsets Tegra 3 vont encore offrir plus de performances et plus de possibilités.
Oui, mais en fait, c'est vraiment pas idiot de Google, parce que plutôt que de se taper uniquement un ou deux set-top box par des constructeurs comme Logitech et Sony, qui, bon, Logitech, on en a quand même pas vu dans les grands magasins, et Sony, ils étaient franchement frileux à proposer leur modèle en Europe. Hein, on s'en souvient de quelques discussions qu'on a eues avec
L'attaché de
l'équipe Dan
presse, oui,
Press. Et
exactement.
donc, si Google doit dépendre des autres pour pouvoir distribuer leur Google TV, bah, c'est pas demain qu'ils allaient y arriver. Et là, un coup avec les tablettes, c'est certainement pas idiot.
Non, c'est certainement pas idiot. Surtout qu'en multipliant les angles d'attaque et en augmentant le nombre de périphériques et de devices qui sont capables d'utiliser le système et le service Google TV, ben, il faut pas oublier que derrière ça, il n'y a pas de l'angélisme, il y a surtout une grosse volonté de continuer à profiler à mort les utilisateurs qui, cette fois-ci, non seulement Google saura ce que vous cliquez sur le web, mais Google saura ce que vous regardez. Et nul doute que c'est une information qu'ils revendront très cher à tous les annonceurs qui travaillent avec eux.
Oui, et puis c'est crucial, hein, comme marché Google TV pour eux, c'est un pas important au niveau de la publicité sur un autre média. Donc c'est vraiment
C'est crucial, c'est vraiment
un marché important.
un big shift, c'est un fait. On a encore des trucs sur Google qu'on peut boucler? Je pense qu'on a fait le
Oui, non, on
tour.
a
Ah
encore un
non,
truc.
oui, les Chromebooks.
Petit Chromebook, c'est Samsung, c'est ça qui en a lancé un ou...
vient de lancer un Chromebook, mais alors, de nouveau, à la mode de Brice, à l'époque glorieuse, mais c'est quoi un Chromebook? Eh ben, un Chromebook, en
Tu manques
fait,
la petite sonnette, hein,
oui, ding-ding
pour
dans
rendre
la...
hommage à Brice, quoi.
Voilà. Alors, un Chromebook, c'est quoi? Mais globalement, c'est un netbook.
C'est quoi un netbook? C'est quoi un netbook?
Un netbook, c'est un petit laptop, on va dire ça comme ça. Voilà, c'est un petit laptop qui généralement embarque un processeur pas trop puissant, un écran pas trop gros, pas trop de mémoire. Voilà, donc ça a été la vague qui a inondé le marché ces 2 dernières années. On a commencé ça avec les Asus IPC. Maintenant, il y en a à toutes les sauces, toutes les formes, toutes les couleurs. On avait parlé d'ailleurs il y a 2-3 podcasts. On vous avait expliqué que c'était plus la déclinaison sur la couleur plutôt que les performances, blabla. Mais en fait, les Chromebooks, en fait, Google a adopté le système en allant un pas plus loin, c'est-à-dire que l'OS de votre système, à la place d'avoir un Windows qui va mettre longtemps à démarrer, etc., ils ont remplacé ça par un système basé sur Linux qu'ils ont appelé Chrome OS, et où en fait toute l'interface de l'OS se retrouve être le navigateur de Google, à savoir Chrome. C'est pour ça qu'on appelle ça un Chromebook. Alors, ça présuppose que vous soyez connecté en permanence, bien que certaines applications aient été modifiées pour pouvoir utiliser la mémoire de stockage, qui je crois est un SSD de 4 ou 8 gigas, comme mémoire de masse. Mais en majorité, pour utiliser un Chromebook, il vous faut une liaison Wi-Fi ou une liaison 3G. Le modèle de Samsung qui vient de lancer n'intègre pas de 3G, je pense, intègre une liaison Wi-Fi, mais à part ça, c'est ça. Alors, l'avantage du truc, c'est que, évidemment, comme tout se passe au niveau du cloud, si vous laissez tomber votre Chromebook du haut du 4e étage et qu'il s'explose joyeusement sur le trottoir 20 mètres plus bas et que vous rachetez un autre Chromebook, eh ben, il n'y a rien qui change. Vous retrouvez exactement votre environnement comme vous l'avez laissé avant de voter le vôtre. Par contre, l'autre avantage, c'est que, étant donné que l'OS est extrêmement léger et que tout se passe en connecté et que la seule infrastructure nécessaire, c'est le loader et le browser, un Chromebook, ça boot en moins de 5 secondes. Et ça, c'est assez inédit. Le problème, c'est qu'il faut être connecté tout le temps. Alors au niveau
Oui.
du prix, on parle de 399-400 € pour une machine de base. Voilà, nul doute qu'il y a encore d'autres constructeurs qui vont venir jouer sur ce segment-là. Samsung a été le premier comme souvent. LG va probablement débarquer assez rapidement, suivi de Acer.
Tu m'en apprends une à propos de Samsung ici, c'est que leur Chromebook est à vendre, il n'est pas à louer. Parce que
Exactement. À
c'était le
l'origine.
business qui était à l'origine normalement
À l'origine,
du Chromebook, hein.
exactement. Ils avaient prévu de le louer, mais apparemment, certains constructeurs n'ont pas estimé que le marché était suffisamment mûr pour de la location aux particuliers, et donc c'est pour ça qu'ils ont opté pour la vente plutôt. Maintenant, une fois que d'autres acteurs seront présents, rien ne dit pas qu'ils vont pas développer les 2 canaux en parallèle.
Oui, c'était prévu pour les étudiants, hein, une vingtaine d'euros par mois ou une vingtaine de dollars pour avoir droit à ton portable de dernière génération. Mais c'est
Mais
un type.
si je peux
Oui?
me permettre, comme Proximus maintenant, qui vient d'annoncer une offre all-in-one avec une tablette Android 7 pouces et la
De Samsung,
connectivité
hein?
3G Samsung, on est certain qu'on va voir débarquer chez Mobistar, chez Proximus et chez les autres des packs avec un Chromebook et une connexion avec une clé Wi-Fi ou je ne sais pas quoi. Ou bien encore mieux,
Oui,
un modèle 3G.
il y a peut-être un marché à prendre, hein,
Certainement.
de la location de portable, enfin, en leasing pour Monsieur Tout-le-Monde,
Absolument.
plutôt qu'un segment juste entreprise, mais c'est évidemment beaucoup plus gênant avec Monsieur Tout-le-Monde qu'en entreprise, vu que bon, ben, son laptop a disparu, essaye de récupérer ton laptop.
Voilà.
Donc c'est un marché plus difficile. J'avais encore un dernier petit truc, moi, sur Google, sous le coude, c'est que, si j'ai lu, en tout cas, que Oracle fait chier Google,
Ah, ça, je
si je
n'ai
peux me
pas lu, tu
permettre.
m'en apprends. Bon, on peut
Ah
tout se permettre ici, c'est
si.
notre podcast.
Voilà, non, si j'ai bien compris, Oracle essaye de réclamer des sous à Google autour d'une violation de brevet pour la technologie Java. Parce que, évidemment,
Exactement, je suis en train.
Oracle a racheté Sun, donc Oracle a non seulement récupérer MySQL, mais aussi Java, au grand dam de certains fans, et en tout cas au grand dam pour la communauté MySQL, pour certains qui ont créé pas mal de forks. Un fork, c'est pas une fourchette, c'est une copie de.
Une branche différente de développement, dirons-nous. C'est-à-dire, on
Voilà.
prend un projet et on le modifie, on en fait un fork.
On le renomme et on repart et on fait
Sur une
un.
base commune. Mais je suis en train, effectivement, j'ai trouvé facilement, voilà, hein, vous
Bah,
avez,
il y avait une news sur
vous la,
informaticien, hein.
oui, vous allez sur Google, mais il y a une news d'hier, en fait, qui indique, sans rentrer dans les détails, donc en fait, il y avait 21 revendications qu'Oracle avait sur le brevet Java, suite au rachat de Sun. 17 de ces 21 revendications qu'ils avaient utilisées pour attaquer Google, eh ben, elles ont été rejetées par l'autorité américaine. Donc il reste 6 autres brevets dans la balance sur les 21, mais il se dit qu'Oracle pourrait avoir moins d'arguments que prévu pour boucler cette attaque. Encore une fois, ça fera partie du petit feuilleton de l'été.
Oui, c'est horrible, mais ils demandaient jusqu'à 6 milliards de dollars de dédommagement alors qu'ils ont acheté Sun pour 7 milliards seulement.
Oui, bien sûr.
Donc
Bon, ça.
c'est Oracle, hein, c'est les grands amis
Mais
du
bon.
monde moderne.
Oui, mais bon, comme on s'en doute, Oracle sera probablement et même très certainement obligé de revoir ses prétentions à la baisse. Parce que bon, selon le juge qui a rendu le premier verdict, il existe un certain nombre de précédents pour les technologies qui sont couvertes par ces brevets. Et donc voilà, ça se, au moment, à partir du moment où ça va exploser, ça va sortir du cadre Oracle Google et ça va toucher, ben, globalement tous ceux qui implémentent du Java quelque part.
Alors, après un petit peu de Google, un petit peu de sécu, Sega,
Sega,
donc c'est plus
Sega, c'est
fort que
trop fort
quoi?
pour toi. Oui, non, là franchement, c'est eux qui se sont fait un peu ramasser. Bah, apparemment, l'histoire avec Sony a dû donner des idées à des hackers qui ont en fait été piqués, globalement, les coordonnées de 1,3 million de clients en hackant
Le club Nintendo, hein,
le
si je ne
club
me trompe pas.
Nintendo, la filiale européenne du club Nintendo. En fait,
Sur lequel j'ai un compte, hein, je le dis en passant. Merci les gars.
moi
Donc,
pas, moi
non.
pas, merci les gars. Non, non, moi je. Non, non. Merci, non.
Mais alors, je ne sais pas si tu as lu un petit peu l'histoire de ce truc, parce que moi, je voulais effectivement aller sur le site. J'ai vu quelques jours avant qu'il n'annonce de s'être fait pirater que le site était coupé.
Ouais.
D'ailleurs, on l'avait annoncé, je pense, un des premiers en Belgique à l'avoir annoncé
Ouais,
sur Internet.
absolument.
Et en fait, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, c'est pas le même groupe qui a attaqué Nintendo que
Non,
celui
ce
qui a
n'est
attaqué
pas
Sony.
Anonymous. Ce n'est pas Anonymous. Anonymous, c'est ceux qui ont attaqué Sony. Ceux qui ont attaqué Nintendo, c'est Lull Security.
C'est ça. Et alors, en fait, les gars qui attaquaient Sony, ils avaient un support de pas mal de gens sur le web, en tout cas, quand on publiait une news là-dessus, on en rigolait parce que ben voilà, Sony, ils ont quand même fait les cons. Ils ont été très agressifs vis-à-vis des pirates qui avaient hacké la PS3. Même si Sony défend son beefsteak, la manière dont ils l'ont fait était vraiment très agressive et était très peu appréciée par la communauté.
Bah oui, bah,
Donc,
rappelle-toi, hein, bien fait, on le maintient toujours, hein, bien fait pour leur gueule,
oui,
quelque
ça
part.
vraiment, ils ont été trop loin et ils sont repris un revers, même si on ne peut pas non plus.
Se réjouir de ça, mais bon, ils l'ont un petit peu cherché, soit.
Voilà. Donc voilà, il y a beaucoup de gens qui avaient la même sympathie vis-à-vis des pirates de Anonymous qui essayaient de faire passer des messages de vivre le monde un peu plus libre et tout ce qu'on veut. Autant ici, c'est vraiment le but était juste de faire chier son monde parce que le même groupe a fait d'autres attaques. Je ne sais pas si c'était eux au Japon, mais ils ont fait d'autres attaques qui étaient vraiment juste. On casse tout, on arrive, on casse tout, on montre qu'on est le plus fort. Et d'ailleurs, je pense que les trucs de ces gars, ils ont juste publié ça le lendemain,
Oui.
sans revendication réelle, parce que voilà, c'est
Non, c'était juste pour la beauté du geste.
Nintendo n'a pas été discriminant ou agressif vis-à-vis de qui que ce soit.
Non, je
Donc
crois que c'est
ça.
vraiment un acte gratuit. C'est voilà, c'est comme à la belle époque du hacking. Voilà, j'ai la plus grosse, je le montre et voilà.
Oui, et du coup, ça a été un petit peu nettement moins bien apprécié et accepté dans les commentaires qu'on lit par-ci par-là. On voit que les gens sont beaucoup plus mécontents de celui qui l'a piraté que de Sony, en tout cas.
Donc, il est
Mais
incroyable, mais il y a une éthique au niveau
du
du
piratage,
hacking.
oui, il y a le hacking, bien sûr. Il y avait un livre d'ailleurs qu'on a fait une review il y a quelque temps sur Informaticien avec le hacking en col blanc qui était assez qui expliquait bien toutes les différences et tous les types. retrouvez-le et lisez-le si vous en avez le courage pendant les vacances. C'était un très bon bouquin. Il y a encore eu un autre piratage d'ailleurs. C'est au Japon ou en Australie, je ne sais plus. C'était il y a quelques jours où un hébergeur qui s'est fait
Un
pirater.
hébergeur qui s... Alors, un hébergeur australien, effectivement,
C'était ça, hein, qui a
qui s'est
perdu
fait
40 000 sites d'un
qui a
coup et qui
perdu
disait, ah, oh,
40 000
désolé les
sites.
gars,
Oui, mais
on n'a pas de
surtout,
backup.
voilà, c'est ça le gros bin, c'est qu'en fait, ils ont dû admettre qu'ils n'avaient jamais fait un seul backup. Et ici, on parle d'un hébergeur professionnel.
Ouais.
Conséquence, oui, il y a, non, je ne crois pas que c'est 40 000, c'est 4 000 clients, je crois.
Non, c'était plus loin, c'était plus proche des 40 000, je pense.
Ouais, tu crois? Attends, je vais essayer de retrouver la news en vitesse. Elle avait été postée chez nous sur la Shout. C'était notre cher Derdeder, je crois, qui avait posté la news. Qui avait posté l'info.
Mais en attendant, effectivement, voilà, le fait de ne pas faire de backup, c'est une chose, parce qu'en principe, ça revient aussi au client de faire toujours son backup final. Mais le script qui
4 800
dit.
sites, voilà.
Le script qui dit qu'il s'amuse à aller, je me connecte à l'hébergeur pour tout balancer. Bon, c'est pas très valorisant, hein.
Ben disons surtout que ça pue un peu la vengeance, quoi. C'est le
Oui.
truc qui pue un peu la vengeance, c'est celui-là, il m'a emmerdé, il m'a fait du mal, ou il m'a viré, je ne sais pas, et voilà, et maintenant je lui pète son business. Mais le fait de ne pas avoir de backup dans un système d'hébergement professionnel, faut quand même le faire, quoi.
En attendant, en parlant de sécu, il y a aussi la Dropbox qui a fait parler d'elle cette semaine, qui
Oui, pendant deux
après
heures, il y a
mise
eu
à
un
jour.
magnifique trou.
Voilà, un
Mais
gros trou.
ça a été patché assez vite. Hein. Là, on doit dire, les gars, ils ont bien réagi. En 2 heures, le truc était
Parce
patché.
que
Mais
t'es gentil, toi.
effectivement.
Est-ce que tu trouves qu'ils auraient dû le mettre ça en prod déjà? Parce que c'est pendant 2 heures, tout le monde a eu accès à tous les comptes.
Oui, bon, il aurait d'abord fallu savoir que c'était accessible, probablement que c'est un
Ouais,
test qui a
ouais.
été révélé par la suite. Évidemment, Dropbox ne va pas aller pérorer sur le nombre de personnes qui ont pu avoir accès. Je suppose que c'est une donnée qu'ils vont garder soigneusement correcte. Mais bon, ils ont quand même réagi relativement vite. Si on fait de nouveau le parallèle avec Sony, bon, la problématique n'est pas exactement la même, mais quand on voit le temps que Sony a mis à réagir avant de solutionner le problème et de bétonner convenablement son PSN pour le remettre en route, pour que de toute façon il se fasse de nouveau viander la semaine suivante, ou même 2 jours après, bon, Dropbox, d'accord, il y a un trou. On sait tous qu'il n'y a aucun système informatique n'est inviolable, il y a toujours une faille quelque part. Le tout est d'admettre qu'il y avait une faille et de la corriger. Donc.
Oui, n'empêche, voilà, ça fait. En fait, si je me souviens, l'explication du gars à l'époque, bien avant qu'il se fasse pirater, la Dropbox, il expliquait que c'était un système qui devait, de nouveau, je mets des gros guillemets, devait être crypté et que seul le propriétaire de la Dropbox pouvait voir ses fichiers
Et donc
grâce à
quoi, c'est
son identifiant.
clé privée, clé
Oui,
publique,
mais en
le
fait.
baratin?
Après, quelques mois plus tard, ils viennent d'expliquer que justement, pour réussir à gagner de l'espace, si deux personnes stockaient le même fichier, ils ne stockaient qu'une seule fois le fichier avec
Avec un lien
un
symbolique.
accès. Voilà. Et alors en fait, les deux explications sont complètement contradictoires. On ne peut pas
Total.
avoir un fichier qui est crypté par personne et en même temps un fichier qui est partagé pour gagner de l'espace. Donc, inévitablement, si ils font ce type d'optimisation, ils ont accès à tous les fichiers et ce genre de faille est possible. Donc, il y a un compromis à faire. Ils ont fait le compromis de la taille, parce que je peux les comprendre. Et voilà, maintenant, faut assumer sur la faille de sécurité. Mais donc, faut aussi se mettre en tête, quand on utilise tous ces systèmes, il y a LaCie qui fait aussi pas mal de promos pour le moment à sortir des disques durs, et c'est loin d'être le seul.
Oui, le fameux disque dur connecté au cloud, encore une
C'est
fois.
ça, et donc c'est des disques durs qui automatiquement copient tout ce qu'il y a sur le disque externe sur Internet pour avoir un backup. Voilà, il
Bonjour le
faut des
quota
systèmes.
en Belgique.
Oui, et bonjour la sécurité, ça sous-entend que tout ce que vous mettez sur votre disque peut malencontreusement un jour être accessible par quelqu'un d'autre. C'est la même chose que pour le.
Ça va être le cauchemar des gars qui storent
Des
les
images de
films de
cul.
Huck sur leur disque dur externe, ça.
Affreux, affreux. Et,
Affreux, affreux,
mais
affreux.
pareil pour les Chromebooks, hein, tout ce que vous allez faire sur les Chromebooks dont on discutait tout à l'heure, ce sera accessible par un vilain pirate si on réussit à avoir un accès au compte Google.
Ouais, donc vive, allez, on y ressort. Vive les disquettes 8 pouces.
L'été, pour moi c'était. On a quand même vécu l'histoire des tapes avant les
On a
disquettes.
vécu l'histoire des tapes, exactement, oui, avec le chargement des blocs de tapes.
Ah, c'était bon.
On rajeunit pas, mon Dieu.
C'était qu'on essayait de copier sur la chaîne Wi-Fi qu'on était, la chaîne Wi-Fi, la chaîne Wi-Fi qu'on était gosse et puis que ça
Ah non,
marchait
non,
pas
moi je
quand
te
on
parle
avait.
vraiment des vieilles tapes, les grosses bobines, style les bobines des magnétos des années 70, les grosses. Moi j'ai encore eu ça, j'ai encore eu, quand j'étais à l'UNIF, j'ai encore eu un data général avec un disque de 300 mégas et des grosses bobines, quoi. Si, si.
Ah, non, c'était, je suis quand même arrivé à l'époque des cassettes, hein, donc.
Oui, non, ça j'ai eu aussi, hein, sur Commodore 64. Ah, bon Dieu, ça nous rajeunit pas.
Non, c'est sûr.
Alors pour embrayer, on va parler un peu matos, puisque on a eu la chance d'avoir entre les mains deux petites tablettes. Alors la première c'est une Acer, c'est une Iconia, la W500, qui tourne, comme le dit son préfixe, sous Windows. Donc elle est
D'ailleurs, oui, petit
installée.
message en passant, si jamais l'équipe d'Acer nous écoute, on avait demandé des A500 et des W500 en prêt. Heureusement que pour finir, la A500, il y en a un de nous qui l'a acheté pour la tester et la W500
Même chose.
pour une des boîtes. Sinon, on attendrait toujours pour le test. Donc voilà, merci les gars.
Voilà. Ben, en attendant, on peut quand même repasser petit merci chez Packard Bell qui nous avait filé un immédiat à tester dans le cadre d'utilisation Media Center, dont on publiera un test dans les jours qui viennent ou les semaines qui viennent.
Et puisque c'est le moment, j'en profite aussi. Salut maman.
Tant qu'on y est, ben oui, nous privons pas. Donc, la Iconia W500. Ben donc voilà, c'est une tablette 10 pouces. C'est la, en fait, la sœur jumelle, à tout point de vue, quasi, extérieurement en tout cas, de la A500. La seule différence, évidemment, c'est que celle-ci tourne avec un Atom. Elle n'embarque pas de chipset Tegra, mais elle embarque. Non, en fait, non, elle tourne même pas avec un Atom. Elle tourne avec un CPU AMD. Elle embarque une carte graphique AMD, donc ATI. Un chip, 2 gigas de mémoire si ma mémoire est bonne, 2 ports USB, et c'est un peu une webcam, et c'est à peu près tout. Alors c'est comment dire, c'est assez déroutant.
C'est mauvais?
Non, c'est pas mauvais. Mais vous vous rappelez quand vous avez fait un petit papote sur la tablette Dune qu'on avait eu en test à l'époque. Elle, par contre, elle tournait sur Windows XP encore. Et contrairement à la Dune, donc celle-ci, elle tourne sous Windows 7. Mais bon, même si c'est aussi réactif, on s'interroge quand même sur deux, trois trucs. Premièrement, bon. Je ne peux pas m'empêcher de faire le parallèle avec un iPad ou avec une tablette Android. Sur le système de saisie, je m'explique. Le clavier qui est affiché à l'écran sous Windows Tablet Edition est tout bonnement catastrophique. Il n'est pas réactif pour deux sous. Il n'est pas facile à utiliser. Il y a souvent le doigt qui glisse, qui n'appuie pas sur la bonne touche. Bien que ce soit un écran capacitif multitouch, bien que la surface de vision soit confortable, ça le fait pas. Prenez un iPad, prenez une tablette Android, vous allez comprendre tout de suite la différence si vous avez la chance d'avoir une tablette Windows entre les mains, la chance ou la malchance. Deuxième chose, les applications qui sont fournies avec à la base ne sont pas, hormis l'une ou l'autre d'entre elles, ne semble pas vraiment adapté à un usage tablette. Il y a
Ouais, mais pour ça, il y a quand même il y a Windows 8 qui doit arriver, hein. On a vu les
Windows
premières
8,
interfaces.
voilà, exactement. On a vu pas mal de vidéos qui vous reprennent le concept de Windows 8, qui expliquent en fait que Windows 8 sera fortement basé sur l'interface Metro que Microsoft avait développé pour les smartphones Windows Phone. Et là, effectivement, on s'attend à ce qu'il y ait du changement. Mais encore une fois, on peut déplorer le fait que Microsoft va débarquer comme les cavaliers d'Offenbach et que d'ici là, on doit se contenter d'espérer que certains constructeurs, Acer ici en l'occurrence, vont développer des interfaces de substitution. Alors, l'interface qu'ils ont mise sur la Iconia W500, ben, ça a un air un peu de pas fini. C'est très joli, c'est esthétiquement, il n'y a rien à dire, mais fonctionnellement, c'est lourd, c'est lent, c'est pas pratique.
Ouais, c'est pas une tablette comme tu peux jouer à l'iPad ou à l'Android. C'est pas prévu comme
Exactement.
tel,
Disons
c'est...
que voilà, c'est plus, on serait plus vers un truc business, mais alors à condition que les applications qui sont derrière soient développées en conséquence, avec des interfaces adaptées. Parce que franchement, quand je l'ai allumé pour la première fois, je l'ai installé, il donne une version de Office 2010 dessus. Office 2010, en pratique, il n'est utilisable que si tu as un clavier et une souris externe. Pour une tablette, c'est un peu le comble.
Oui, mais celle-là, si je peux me permettre, elle est... ils la vendent avec un dock qui est 100 euros de plus, hein, c'est un accessoire, sur le... qui fait clavier et qui, du coup, te transforme ta tablette en netbook. Bon,
Absolument.
ça fait un peu chipotage, mais c'est pour une utilisation, netbook-tablette plutôt que de devoir avoir et une tablette Windows et un netbook.
Je comprends le concept et je comprends l'intérêt, mais bon, dans l'absolu, et tu verras quand tu mettras tes mains dessus, c'est pas vraiment, enfin, il n'y a pas de
C'est pas
comparaison
une
entre les
réussite,
versions.
quoi, encore.
C'est pas encore une réussite.
Mais
On s'en
ça tient plus à
rapproche.
la tablette qu'à l'OS. Ça en tient plus, pardon, justement, à l'OS qu'à la tablette.
Ça tient plus, oui, parce qu'au niveau de la tablette elle-même, bon, elle est assez lourde, hein, faut compter à peu près
Oui, elle était beaucoup
200
plus lourde que
grammes.
la 500, hein.
200 grammes de plus qu'un iPad première génération, donc ça pèse. Mais sinon, bon, bel écran, belle qualité d'image. Il y a une sortie HDMI, j'ai réussi à lui faire jouer de la vidéo en 720 sans aucun problème. Mais effectivement, l'OS n'est pas encore entièrement adapté à une utilisation tablette.
Et question autonomie, parce que justement, c'est pas les mêmes, c'est pas des ARM ici, c'est des Intel, et on s'approche plus d'une autonomie de type netbook qu'une tablette classique.
Alors, j'ai eu l'occasion de faire des tests assez poussés pendant 2-3 jours. De base, en utilisation recommandée, c'est-à-dire avec l'alimentation mise en mode portable, on atteint entre 4 et 5 heures et demie d'utilisation sans vraiment faire beaucoup de choses.
Ok, en gros, comme une utilisation netbook, quoi.
À partir du moment où tu commences à pomper sur le Wi-Fi,
Oui, vas-y, pompe sur le Wi-Fi.
je pompe sur le Wi-Fi à mort, ça commence à devenir beaucoup plus problématique. Tu fais tourner en même temps, tu utilises ta tablette pour streamer du Wi-Fi qui vient en Wi-Fi, une vidéo en 720 qui vient d'un NAS ou d'un media center. Ton
Il te faut la
autonomie.
batterie dans le sac à dos, quoi.
Il te faut la batterie dans le sac à dos. Alors j'ai aussi l'occasion, puisqu'on a testé cette tablette dans un cadre plus professionnel, de la relier à un périphérique USB. Et là, je dois avouer que même si le périphérique est un périphérique basse consommation, vu qu'en l'occurrence il s'agit d'un simple lecteur de carte, ben ça, selon l'expression consacrée, ça suce des ours. Dans le sens où là, l'autonomie, elle tombe royalement en économie d'énergie à moins de 2 heures.
Youp la boum, mais c'est de la balle.
C'est de la balle. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que la batterie qui est en... Je n'ai même pas les spécifications de la batterie qui est enfermée, qui est reprise dedans, mais je crois que ça ne doit pas dépasser les 1750 milliampères. Ça ne doit pas être du lourd. Quand on voit qu'en face, une tablette Android ou un iPad tient facilement 10 heures, voilà. Il y a de quoi... Disons qu'au niveau architecture x86... Je crois que tant Intel qu'AMD ont encore des progrès à faire vraiment sur les choses. Et c'est dommage parce que je ne comprends pas le choix d'Acer qui a été collé à un CPU AMD alors que il y a des CPU Intel ULV qui eux auraient tenu beaucoup mieux dans un truc comme ça. Mais bon, choix stratégique, ça on n'est pas là pour discuter ce genre de choses. Alors,
Oui, quand on regarde, effectivement, il y a plein de gens qui s'en plaignent. La
ouais.
batterie,
Alors, à
c'est pas
côté de
la fin.
ça, on a eu en main, et ça on l'a depuis ce matin et on est en train de faire joujou avec, toujours dans le cadre d'une utilisation professionnelle, là on a eu en main,
Un tofu.
j'hésite à appeler ça une tablette parce que c'est. Le machin fait quand même. Attendez, je vais prendre de quoi le mesurer parce que j'ai mon petit mètre ici.
T'as toujours un
Alors,
mètre avec toi pour
j'ai
mesurer, c'est
toujours un
bien.
mètre avec moi. Non, il faut. Le truc fait quand même pour une tablette quasi 6 cm d'épaisseur.
Ah oui, c'est petit quand
Et
même, hein, par rapport à la moyenne.
ça pèse son bon kilo et demi.
Ah, ça par
Alors,
contre, c'est largement au-dessus de la moyenne.
voilà, ça embarque un écran qui fait, alors, écran de très grande densité d'ailleurs, un écran qui fait 12 cm par 7 en 1024 par 600. Donc je vous laisse imaginer la taille des caractères, la loupe n'est pas fournie avec. Et en fait, c'est une tablette qui répond aux standards industriels et militaires. Alors, par exemple, c'est le genre de truc que vous pouvez faire tomber de 2 mètres sans qu'elle soit sans qu'elle rouspète le moins du monde. Elle est blindée dans tous les sens du terme. Tous les connecteurs sont protégés par des caches anti-poussière. Ce n'est pas une tablette avec écran capacitif, c'est du bon vieux résistif fourni avec un stylet. C'est censé être utilisé d'une seule main. Et à l'intérieur, on trouve un atome à
Ah, écoute, ouais, c'est très
1,6 GHz,
bien.
un petit disque dur.
C'est du SSD ou...
Non, non, c'est
Non,
du disque dur normal, c'est un 40
ok.
gigas en SATA, je crois. Et alors, c'est là qu'on comprend tout l'intérêt de du modèle industriel, deux batteries. Et ce truc affiche fièrement une autonomie de 8h30. Là, ça
En
devient plus
utilisation normale,
intéressant. Full.
Wi-Fi et tout le bazar?
Wi-Fi, tout le bazar à fond. Alors, il faut savoir que ces modèles, il y en a plusieurs, hein, la gamme Toughbook chez Panasonic, puisque c'est une Panasonic, affiche quand même une gamme assez bien étendue. Alors, ce qu'on a en main, c'est la CFU1, c'est la petite tablette, le modèle de poche, on va dire, si je peux dire. Il existe une tablette plus grande, donc celle-ci, elle a un écran 7 pouces, 6 pouces ou 7 pouces, je ne sais pas très bien. Il existe une tablette plus grande, c'est la CFH1, qui, elle, affiche un écran de 10 pouces. Et alors, il y a les modèles laptop qui sont tout aussi blindés, mais que vous avez déjà peut-être vus sans le savoir. Ce sont les laptops qui sont embarqués par nos chers techniciens de Belgacom. Donc, quand vous avez un Tekos Belgacom qui débarque chez vous et qu'il a son laptop de type industriel, il y a beaucoup de chances que ce soit un Panasonic Toughbook. Alors, en gros, qu'est-ce
Oui,
qu'on peut
d'ailleurs,
en
en fait,
faire?
Toughbook est une marque qui appartient à Panasonic. Ça,
Exact,
c'est
ouais.
pour la petite.
Voilà. Alors, en gros, qu'est-ce qu'on peut faire avec? Mais comme on vous l'a expliqué, nous, on l'utilise ici en test parce qu'on a, dans le cadre de nos
C'est
activités,
utilisé en matériel médical,
voilà,
si je me trompe,
exactement.
hein, souvent.
Voilà,
Surtout
nous,
matériel médical, mobile,
et en milieu industriel.
industriel, oui.
Voilà, donc, ce n'est pas le genre de truc que vous devez avoir chez vous pour frimer, sauf si vous voulez vous la péter à mort.
Oui, mais faut la péter avec un gros portefeuille parce que c'est entrée de gamme 2500 euros.
À peu de choses près, oui, effectivement. Mais encore une fois, ça répond à tous les standards militaires. Donc, je ne sais pas s'ils vont jusque-là, mais c'est censé pouvoir. Je sais que les Toughbooks, les portables Toughbooks, sont prévus pour résister à un impact de balle. Maintenant, désolé, mais n'ayant pas de Magnum sous la main, je ne saurais pas vous dire. De toute façon, je suis pas sûr que Panasonic serait content qu'on fasse ça à la tablette qu'ils nous ont si gentiment prêtée.
Non, mais il passe sous un humeur en principe. Donc là, par contre, tu n'as pas un humeur, mais t'en es pas loin.
Non, ça va, une Audi, c'est pas un Hummer. Par contre, je connais quelqu'un qui a un H2, je pourrais lui.
Je pensais le humeur.
Hein?
Un humeur?
Un H2, ouais, je connais quelqu'un ici à Wemel qui a un H2. Le petit Hummer, il fait jamais que 1,7 tonne.
Ah ouais, donc à la limite, ton Audi fait plus de poids.
Non, pas sûr, non.
À tester un jour
À
pour le
tester
fun.
un jour,
Mais il y a plein de
oui.
malades qui l'ont déjà fait sur le net.
Oui. Tu penses notamment au taré de Will It Blend, mais là je suis pas sûr que leur blender il va résister à ça. Hein.
Ouais,
Enfin
ça.
bon, toujours est-il que c'est du beau, c'est
En
du beau.
tablette, on en a encore une petite, quand même, même si elle n'est pas. Moi, on l'a pas eu en test, mais par contre, on en parle beaucoup ces derniers jours. C'est le Tegra 3. Et oui, Tegra 2 est à peine sorti, à peine disponible depuis quelques mois, que on parle déjà d'une tablette Kalel. Ici, ce serait
Ah,
Asus.
ils se sont foulés pour les noms, on dit.
Ah, ça, écoute.
La
Ah,
mythologie, hein, les
mais
super-héros.
HTC, ils s'amusent aussi souvent avec des noms à la con. Et d'ailleurs, ils ont suffisamment peu d'imagination pour que pour faire des. Wildfire 2 ou des trucs Wildfire S, en gros le même nom, il utilise 3 ou 4 modèles différents
Vraiment, enfin, Kal-El, ça
pour
va,
bien le
quoi.
rentabiliser. Mais voilà, Kal-El.
Ouais, pourquoi
Et
pas.
ici, donc ce sera le Tegra 3. Asus, ouais, normalement ce serait pour octobre, d'ici à la fin d'année, mais Nvidia, eux, ils espèrent pousser le marché pour l'avoir d'ici fin août, début septembre, tout juste pour la rentrée. Et le Tegra 3, c'est. Au lieu de Tegra 2, c'était deux cores, dual core. Le Tegra 3, c'est du quad core. Ouais. Donc, ils auraient pu faire plus simple pour monsieur tout le monde et faire Tegra 4. Parce que déjà, les présentations qu'on voyait ici, c'était. Je sais pas si tu te souviens en conférence de presse, ça a deux processeurs, ça a deux cerveaux, c'est normal, c'est avec des petites usines. Enfin, c'était lamentable la présentation qu'on vous en fait.
Ah, c'était du grand public, tu parles de celle qu'on a vue chez LG, c'était
Oui.
jouissif.
Pour essayer de faire comprendre à monsieur tout le monde à quoi ça sert de processeur.
Oui, ça
C'est
déjà c'est
pire.
compréhensible, mais essaye surtout de leur faire comprendre à Madame Pichemou à quoi sert de la RAM dual channel. Déjà sur un PC, c'est pas toujours évident, mais alors sur un smartphone, mon Dieu.
Soupir, hein.
Soupir, gros soupir, oui.
Voilà. Et donc, l'Tegra 3 arriverait très prochainement chez Asus, qui serait le premier à nous en sortir une. Bon, après, à voir qui, que, quoi, quand, comment. Et dans le même ordre d'idée, l'Tegra 2, il y en a un petit constructeur français qui vient de nous sortir un truc. Alors, j'ai plus le prix là comme ça en tête, mais c'était. Ils ont sorti des tablettes prévues pour les prochains mois, c'est Arcos, hein, pour ne pas les citer.
Oui, il n'y a pas
J'essaie de me
la une
retrouver
tablette,
le.
tablette là, c'est la A9, je crois, non?
Oui, mais alors le fait c'est que c'est vraiment très très peu cher. C'est. Hop, la petite news. Ça veut pas, Google, vas-y. Et voilà, deux tablettes à 1,5 Go, c'est-à-dire ce seraient les plus rapides du marché actuellement, c'est des HomeUp 4. Et alors, il y a une 8 pouces qui serait à 279 $, la G9, et une 10,1 pouces qui serait à 349 $. Donc vous imaginez une 10 pouces avec un dual core 1,5 GHz à 349 $. Non seulement c'est beaucoup plus rapide, de plus de 50% qu'ils annoncent, parce que ici c'est des Texas Instruments et c'est pas des je sais plus qui, c'est pas des Nvidia, voilà. Ils annoncent plus de 50% de rapidité en plus par rapport à la Tegra 2, et elle serait beaucoup moins chère.
Et on parle de
Donc,
quel ordre de prix ici?
ben, je viens de te les donner, 3,49 pour une 10 pouces, 3,49 $. Alors que c'est des constructeurs français, donc on pourrait espérer avoir un bon taux de change pour.
Ouais, ça tu rêves. Disons que ça va tourner aux alentours des 350 euros ici, quoi. C'est
Oui, mais
quand même
pour avoir.
relativement honnête.
On est dans les 500, hein, sinon.
Ouais.
Donc ça fait une bonne baisse de prix pour une tablette qui va beaucoup plus vite. Donc bah, bravo Arcos, on attend de voir.
Attendons de voir.
C'est prévu pour la fin septembre.
À voir donc.
Oui, parce qu'ils n'ont pas eu d'habitude, ils ne font pas spécialement du mauvais matériel, nos braves petits voisins. D'ailleurs, si un gars d'Arcos nous écoute,
Oui, on aimerait bien avoir du matos en test, voilà, on
hein,
sait
qui sait,
jamais.
hein, ils sont peut-être
Ouais.
plus réactifs que nos braves gars de chez Acer. Donc voilà, ça c'est tout pour les tablettes Android. Et j'ai un petit truc, petite news juste pour le fun, allez, une petite
Vas-y.
caricature. Firefox 5, il est sorti.
Firefox, attends, non, ils sont pas au, non, ils sont au 17 déjà, non?
Ah, non, 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 ils sont encore qu'au 15. Le 17, il arrivera d'ici une dizaine de minutes.
Voilà, exactement. Ah là là, nos copains de Firefox. Oui, on ne sait pas ce qui se passe. Soit ils se sont mis à la sauce Google, je ne sais pas. Mais encore une fois, c'est qui aura la plus grosse numéro de version. Google, ils nous sortent une nouvelle release majeure tous les mois et demi maintenant. Et Firefox, en 3 mois, ils vont passer du 4 au 5 et au 6.
Ouais, Microsoft qui suit, hein, ils y
Et
vont aussi, hein, ils
Microsoft
sont
qui
déjà au
suit.
9. Ouais.
Oui, et le 10 est prévu pour dans pas longtemps. Mais bon. Enfin, d'un autre côté, ça nous permet de nous rassurer, nous autres développeurs web, en nous disant que l'un jour ou l'autre, grâce à ça, on pourra enfin définitivement enterrer IE6. Yes!
Tu rêves, toi.
Oui, c'est vrai qu'à l'administration, ils viennent juste de migrer sous XP avec IE6.
Ouais, c'est pas encore gagné, hein. Il y a encore
Ah.
quelques grosses boîtes.
Ouais, je
IE6,
sais.
on y est accroché, hein.
Ouais,
Quand tu penses qu'il y
hélas.
en a encore beaucoup qui bossent en COBOL.
Ou bien en Fortran.
Courage, les gars.
Ouais, allez. Alors, qu'est-ce qu'on a pour continuer? Ah oui, Facebook.
Facebook, je sais pas,
Facebook.
j'ai pas lu ça.
Ah. Ben en fait,
C'est toi qui m'as
Facebook.
sorti ça.
Ouais, en fait, Facebook, il y a des fuites qui sont sorties de Facebook. Qui dirait, alors à prendre au conditionnel, parce qu'on ne sait pas si c'est vrai, si c'est pas vrai, si c'est de la méchante rumeur ou pas, mais en fait, Facebook préparait un App Store qui serait destiné à la plateforme Apple. Donc en gros, Facebook est en train de développer un produit qu'on appelle le projet Spartan. Et donc en fait, ils veulent développer un App Store web qui va être utilisé et utilisable sur les machines de Apple. Alors, on se plaint depuis longtemps que bon, Facebook avait sorti une application native pour l'iPhone. Ça, c'est de la cuisine interne Apple, hein. Donc, il n'y avait pas d'application native pour l'iPad, ce dont beaucoup de gens se plaignent. Donc, du coup, ils se rabattent sur des applications comme Talk for Facebook ou bien Friendly, qui sont du Facebook sans en être. Mais Facebook n'avait jamais voulu développer d'applications natives. Ici, apparemment, ils vont...
Mais contrairement à Android, hein, Android, c'est même...
C'est même intégré dedans, oui. Alors, ce qu'il faut savoir, oui, bon, petite parenthèse, Facebook est intégré tout comme Twitter dans iOS 5, ça on le sait maintenant. Il y a suffisamment de preuves et de faits qui sont sortis. Fin de la parenthèse. Mais disons ici, ce qui est assez surprenant, ça a été la réaction de Apple, qui au lieu, pardon, de glapir...
Vas-y, rote à ton aise, personne n'écoute.
Au lieu de glapir et de hurler au procès et à l'infamie et à l'assassinat comme ils le font d'habitude et comme ils l'ont fait il n'y a pas tellement longtemps avec Amazon, en leur collant procès sur procès pour récupérer la paternité du nom App Store, c'est pourquoi ils ont été déboutés donc pendant la gueule Apple. Ici, Apple a annoncé que en fait ils allaient supporter l'initiative de Facebook et qu'ils se réjouissaient de voir un nouveau canal de diffusion pour les applications. Alors évidemment, on peut bien s'imaginer qu'à côté de ça, tous les développeurs à iOS sont en train de se frotter les mains en se disant peut-être qu'on va avoir un canal de diffusion qui sera beaucoup moins contraignant et surtout moins onéreux pour nous, parce qu'il ne faut pas oublier que Apple continue à prélever 30% de tout ce qui se vend via l'App Store et qu'ils sont en train de se faire des coronesses en or avec ça. Et surtout qu'ils ont des critères de sélection absolument incroyables et parfois incompréhensibles. On en veut pour preuve que des applications qui avaient été acceptées à l'époque, qui ont tourné sur l'App Store pendant des mois et qui, par malheur, sans qu'ils le sachent, avaient reproduit certaines fonctionnalités qui ont été maintenant intégrées dans iOS 5, et ben du jour au lendemain, elles ont été éjectées de l'App Store. Donc parfois, on se demande un petit peu à quoi ils pensent chez Apple. C'est vraiment la mainmise et l'hégémonie à tous les niveaux. Donc on peut peut-être saluer, effectivement, si c'est pas de la rumeur, si c'est pas un truc fantaisiste comme d'autres en ont le secret pour faire du marketing et qu'on parle d'eux, ben oui, avoir un deuxième de canal de diffusion pour des applications iOS via Facebook, pourquoi pas? Et après tout, pourquoi pas si ça peut continuer pour BlackBerry, pour Android, etc.
Pour comprendre facilement, parce que soit je suis trop fatigué, soit c'était pas clair, c'est quoi en pratique? C'est Facebook qui va créer une application sur Android, sur iOS, via laquelle les applications d'iOS seront aussi disponibles?
Eh bien, apparemment pas. En tout cas, pour l'instant, sur iOS,
ou les applications
ça va
Facebook.
Se faire entièrement web. Donc, en fait, en utilisant les dernières technologies, dernier moteur JavaScript, HTML5, tout ça. Facebook en fait va développer une application online qui permettra d'installer des applications natives iOS sur iPhone ou bien sur iPad ou sur iPod Touch.
Donc, et en fait, concrètement, quel est l'intérêt de Facebook d'avoir des applications si c'est pas lié à leur compte?
Mais en fait, si l'intérêt il est colossal, c'est que ça permet de traquer de manière beaucoup plus. Petit retour en arrière. Actuellement, le seul canal de diffusion qui existe pour des applications sur iOS, il y en a deux. Soit vous êtes respectueux des lois et vous voulez pas faire de la peine à Apple et vous ne jailbreakez pas votre iPhone ou votre iPad ou votre iMachin, et donc vous passez forcément par l'App Store.
Ce que fait un consommateur. Voilà. Ce que fait bien sûr comme brave consommateur.
Oui, absolument. Moi, je l'ai même pas encore sorti de la boîte qu'il est déjà cassé. Non. Ce qui se passe donc, c'est qu'aujourd'hui, c'est le seul canal de diffusion officiel. Mais à côté de ça, toutes les applications qui sont refusées par l'App Store, il y en a un paquet, notamment toutes celles qui touchent au système, toutes celles qui permettent d'aller voir...
Celles qui touchent à des trucs un peu glauques, quoi.
Toutes celles qui peuvent, et oui, effectivement, il faut le dire, c'est du côté du jailbreak qu'on associe souvent la partie piratage. Et oui, effectivement,
non,
il y a des...
C'est plutôt les applications adultes.
Eh bien, étonnamment, peu. Il y en a très peu qui se retrouvent du côté jailbreak. Par contre, on retrouve des trucs du côté App Store, Kamasutra, accès à des vidéos de cul, tout ça. Ça, par contre, ça passe. Je sais pas trop comment. C'est pour ça que parfois, on se demande quels sont les critères de sélection que retient Apple. Mais donc, pour revenir à ce que je disais...
Si je reviens sur la petite parenthèse de Digit Plus, il n'y a pas longtemps, ils viennent de mettre en place un système de filtrage et un système de notation des applications. Qui permettent de dire si on accepte ou pas du contenu légèrement osé ou légèrement violent ou très violent, très osé, etc., etc. Il y a quatre niveaux, je pense, différents de filtrage. Eux sont plutôt ouverts et c'est à l'utilisateur de décider s'il accepte ou pas des applications qui pourraient être un contenu choquant. Donc ça, c'est vraiment une très grosse différence entre les deux plateformes et ce qui, honnêtement, me fait préférer toutes les plateformes Android qui sont quand même beaucoup plus ouvertes, même pour des Américains et qui n'ont pas l'esprit Apple de on a vu un nichon, on doit tout censurer, c'est horrible.
Oui, bon, mais ça, tu sais, c'est l'esprit américain et voilà.
Mais on dirait qu'Android, hein, tu vois, une petite touche européenne de liberté que je préfère, quoi.
Mais pour revenir à ce que je disais, donc effectivement, actuellement, le seul canal de diffusion officiel, c'est l'App Store via Apple. Et alors, du côté obscur de la force, il y a Cydia. En fait, Cydia, c'est la même chose que l'App Store, sauf que se retrouvent là-dedans toutes les applications qui touchent un peu trop au système, toutes les applications, tous les tweaks vraiment qui permettent de customiser le système comme on le veut, changer le look and feel, rajouter des fonctions, en allant même rajouter modifier les interfaces des applications natives. Donc il y a vraiment des petites
Ouais,
niches
d'ailleurs,
là-dedans.
si je me trompe, pour les fans de Cydia, toutes les nouveautés ou beaucoup des nouveautés qui étaient annoncées par Steve à Moribond à la dernière conférence, désolé Steve, mais c'était vraiment, pour moi, ça me faisait peur comme conférence,
Oh, effectivement, mais toutes ces applications sont depuis
existaient
longtemps
déjà.
dans Cydia, absolument.
Ouais.
Et voilà. D'ailleurs, pour la petite anecdote, encore une fois, le développeur qui a à l'origine pondu le système de notification tel qu'il a été présenté lors de la dernière conférence, eh ben, ce développeur qui avait pondu son application qui était distribuée gratuitement dans Cydia, maintenant il bosse chez Apple. Donc
Ah
voilà,
tiens.
bouclé, bouclé. Et donc, pour clore le sujet, on a le canal officiel avec l'App Store, on a le canal non officiel avec Cydia. Si on peut avoir des canaux supplémentaires via Facebook, pourquoi pas? L'avantage derrière ça, c'est que Facebook va récupérer également toutes vos habitudes de consommation au niveau application iOS, encore une donnée qui sera bien chère, qui vaudra bien cher quand il faudra la vendre et la négocier avec tous les annonceurs potentiels. Pour l'instant, il n'y avait qu'Apple qui pouvait le faire, et Apple étant totalement hermétique, hormis stats très très général, ici, Facebook aura vite compris que l'intérêt qu'il pourra tirer de cette source d'information. Encore plus de pubs, youpi.
Alors, au niveau dernier sujet pour ce podcast, numéro 8, si j'insiste, le numéro 8, c'est le roaming, parce que les vacances arrivent, et là vous allez partir peut-être en Espagne, en France, ou que sais-je, en Italie, ou bon, si vous allez beaucoup plus loin, tant pis pour vous. Mais pour cela, en tout cas, on a des infos. En tout cas, pour l'Espagne, mais c'est valable pour la plupart des autres pays. Il existe souvent des offres qui sont prépayées, contrairement à ce qui existe en Belgique où en général on a des forfaits, d'ailleurs sauf de Mobile Viking qui est un des seuls en Belgique mais il n'est pas encore assez connu, des forfaits donc prépayés, où vous payez 15 euros chez Mobile Viking pour votre giga pour le mois, ou pour vos 2 gigas, pardon. Et en Espagne par exemple ça existe, Carrefour le fait, Vodafone le fait, pour Carrefour c'est aux environs de 1 euro par jour. Avec lequel vous avez 100 mégas, et dès que vous avez dépassé vos 100 mégas, vous retombez à une vitesse de 128K. Il y a plein d'offres qui existent comme ça, qui sont accessibles pour les étrangers, moyennant une bonne négociation en espagnol avec les vendeurs, mais c'est possible.
Et quand tu parles pas espagnol, tu fais quoi? Tu
Mais tu en
pleures.
trouves une qui parle anglais ou un qui parle anglais dans le magasin, ce qui n'est pas toujours évident, mais dans une zone touristique, ça peut aller. Et ça vous permet, pour quelques euros, d'avoir une bonne connexion à l'étranger et de pouvoir faire des podcasts et d'autres. Sans vous trouver voilà, le portefeuille, on va dire. Mais ça existe en Italie,
Oui,
en
effectivement,
France.
je suis en train
En
de
Italie,
voir
il
en
y a des
Italie,
offres
vu que j'y vais,
prépayées.
effectivement. Vodafone a une solution prépayée en 3G et ça coûte quand même relativement cher, je vois.
Ouais, mais donc il faut changer, il faut éviter le roaming ou des trucs à la Vodafone, quoique Vodafone sur certains pays comme l'Espagne ça va encore, et préférer les trucs locaux un petit peu inconnus, mais qui vous permettent d'avoir de très bonnes connexions, vraiment pas très cher. Et donc pour ça, prévoyez un modem 3G avec vous et regardez à l'avance, il y a plein de forums qui existent. Renseignez-vous sur ce qui existe à l'étranger. Si vous n'avez pas envie de vous renseigner, il y a toujours Proximus qui a lancé, qui a envoyé un mail il y a une demi-heure à peine, avec un forfait à la journée qu'ils viennent de lancer pour un jour en Europe à 10 mégas qui vous coûte 6 euros. Donc, et 18,15 € pour 50 mégas. Ils trouvent ça génialissime. Pour moi, ça fait. Je trouve que c'est.
C'est du vol.
C'est du vol, hein, honnêtement, quoi. Mais avant, ils se faisaient 5 euros le méga, donc 5 euros les 6 euros les 10 mégas, ils trouvent que c'est un cadeau. Mais
Ben, ils ne font
pour
que
1 euro, vous
s'aligner, ils
avez.
ne font que s'aligner sur le prix des, ils ne font que s'aligner sur le prix de Mobile Viking qui propose 50 cents le méga.
Ouais, mais.
On y est très très vite.
C'est horrible, hein. Ici, Carrefour Espagne, c'est, je vous répète, 1 euro par jour, 100 mégas. Hein. Mais c'est. C'est sans commune mesure avec des offres de roaming, donc
Ce sont des offres locales, bien sûr.
renseignez-vous bien sur ce qui existe à l'étranger. Et puis bonnes vacances pour ceux qui partent.
Oui, effectivement, mais tu as terminé là en fait.
A priori.
A priori, eh ben moi aussi. Donc en
On a
fait, on va
fini?
pouvoir. Oui, on a fini, on est venu à bout de ce 8e podcast. Ça, on le dit, voilà. Eh ben, messieurs, mesdames, on vous
Mademoiselle.
souhaite un excellent week-end. Nous, on retourne au charbon. Enfin, moi, puisque l'autre est en train de se bronzer, enfin de se rôtir.
Oui, je retourne au
Et
soleil, désolé pour vous, à la plage, avec la mer, les cocotiers et les coups de soleil.
allez, rassurez-vous les gars, la semaine prochaine on annonce 32 degrés, on pourra déguster aussi.
Oui, mais sans la mer, sans les cocotiers, sans la plage.
Il reste toujours la mer du Nord. Ou bien le bac avec de la flotte dans le
Et
fond
sans les filles en
du
maillot, hein, parce
ravin.
que bon, désolé, mais ici au moins, c'est
Tu
ça
veux
les plages.
revenir vivant? Allez, à la prochaine et rendez-vous dans 2 semaines, hein, pour le
À
prochain
la
podcast.
prochaine.
Ciao, ciao les mecs et les dames.